Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast pour une nouvelle interview. Je reçois régulièrement des experts de leur domaine afin qu'ils vous partagent la synthèse de leurs recherches pour vous donner des outils simples et actionnables pour améliorer votre vie, votre productivité, votre santé ainsi que vos capacités cognitives. Comme souvent, ces interviews sont très denses en informations. C'est pourquoi je vous invite à télécharger dès maintenant la fiche résumée de l'échange que je vais avoir en cliquant sur le premier lien présent en description afin de vous assurer de tirer pleinement bénéfice des conseils de mon invité. Alors aujourd'hui, je suis avec Aurélie. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Aurélie, tu es du coup consultante en sommeil et donc tu accompagnes les personnes à quitter les troubles du sommeil de façon naturelle.
Oui, oui, tout à fait. Consultante de sommeil pour les adultes et aussi pour les ados, parce que malheureusement, il y a pas mal de problèmes de sommeil chez les ados. Donc effectivement, j'accompagne ados et adultes à retrouver un sommeil plus serein et du coup à se sentir mieux en journée. Puisque on aura l'occasion de le développer, mais le sommeil, c'est tellement un pilier du bien-être, de la santé, et puis de la mémoire et de tellement de choses, que finalement, on se sent vraiment, vraiment, vraiment changé lorsqu'on retrouve un bon sommeil.
Pour commencer, qu'est-ce qui t'a mené du coup à aujourd'hui faire ce métier-là, à avoir cette expertise-là?
Alors, finalement, le sommeil, il s'est un peu imposé à moi de deux façons bien différentes. Le premier par son absence pendant longtemps, puisque j'ai souffert de troubles du sommeil pendant 15 ans. Depuis la fin de mon adolescence jusqu'à mes 31 ans, j'en ai bientôt 37 aujourd'hui. Donc là, pour le coup, c'était mon pire ennemi. Et puis, eh bien aujourd'hui, en sortant des troubles du sommeil il y a quelques années en arrière, du coup il y a 5 ans en arrière, j'ai décidé d'en faire mon allié. Et c'est pour ça que ça s'est un peu imposé à moi, parce que finalement, tout ce que j'avais pu apprendre, comprendre, j'avais envie de le transmettre pour que d'autres personnes puissent cheminer comme moi vers la sortie de l'insomnie et surtout ne pas, entre guillemets, perdre 15 ans à lutter contre son sommeil ou contre son trouble du sommeil plutôt. Et donc, c'est devenu une évidence, en fait, pour moi de partager tout ça et d'accompagner les gens qui en avaient besoin. Ça peut être effectivement de l'insomnie vraiment sévère et chronique comme moi je l'ai vécu, mais ça peut être des troubles du sommeil un petit peu plus légers. Finalement, peu importe, puisque derrière, à partir du moment où on comprend les mécanismes du sommeil, tout fait sens et tout se suit de la même façon.
Tu parles de partager, c'est l'occasion, je pense, rêver pour dire que tu as également un podcast sur le sujet.
Oui, mais en fait, tout a commencé par là. Tout a commencé par là, parce qu'à partir du moment où je suis sortie de mon insomnie, j'ai eu envie de le partager et cette transmission, c'était difficile pour moi de la faire passer par juste le fait d'en discuter avec les gens. J'aurais pu aller frapper chez tous les voisins, mais c'est pas dit que ça les aurait beaucoup passionnés. Donc le meilleur support, ça a été effectivement le podcast qui m'a permis de partager mon parcours, mon histoire, les choses que j'avais pu tester, expérimenter, les choses que je voulais aussi tester et expérimenter, les ouvrages, la littérature scientifique, ce que je lisais. Et donc, ça a été le premier média de transmission autour du sommeil. Et après, sont venues les consultations, les conférences et les formations, qui sont aussi aujourd'hui d'autres axes de partage et de transmission. Mais ça a commencé par le podcast qui s'appelle « Insomnie hors de mon lit » et qui porte bien son nom. Voilà, on parle de sommeil.
Pour commencer, il y a une véritable recrudescence des troubles du sommeil et de l'insomnie suite au Covid, notamment. Et j'aimerais commencer l'épisode par faire une distinction avec toi, s'il te plaît, la distinction entre troubles du sommeil, justement, et l'insomnie. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux aujourd'hui ou est-ce que les deux sont deux éléments similaires?
Alors, l'insomnie est un trouble du sommeil. Maintenant, on va parler de... Il peut y avoir d'autres troubles du sommeil qui ne sont pas de l'ordre de l'insomnie. Donc oui, on peut les différencier d'une certaine façon. L'insomnie, c'est un trouble du sommeil dans le sens où le sommeil n'est pas, on va dire, d'environ 8 heures d'affilée. On se couche le soir, on se réveille le lendemain matin sans trop s'être posé de questions. L'insomnie, c'est la difficulté soit d'aller vers le sommeil, soit d'y rester dans le sommeil. Donc on va être réveillé en plein milieu de la nuit, ça peut durer longtemps, soit de se réveiller de façon très précoce, après 4 ou 5 heures de sommeil, et pas pouvoir rebasculer vers le sommeil comme on le souhaiterait. Ça, c'est l'insomnie, mais après, si on parle de l'insomnie d'un point de vue peut-être plus médical, on va considérer que l'insomnie, ça va être plus de temps de jours, de moins de 4 ou 5 heures de sommeil, X fois répété dans le mois. En fait, il y a comme ça toute une, on va dire, quelque chose de très mathématique qui a été posé pour dire est-ce que c'est une insomnie ou pas. Alors, moi, je suis très distante de cette définition-là, parce qu'en fait, finalement, le mot, on s'en fiche complètement. C'est-à-dire que ce soit considéré comme de l'insomnie d'un point de vue du corps médical ou pas, En fait, ça change rien au fait que la personne, elle dort pas, elle se sente mal dans sa peau, elle se sente pas au top à son travail, au niveau cognitif ça suit pas, elle a plus de mémoire, et en fait elle peut même avoir des troubles métaboliques, etc. Donc finalement, on parle d'insomnie quand on se laisse de l'espace pour son sommeil, mais que le sommeil il vient pas. Pour moi, c'est vraiment la définition à retenir. Après, les troubles du sommeil, ça peut être des réveils très très fréquents, par exemple. On se rendort, mais on se réveille quand même de façon très fréquente. Donc tu vois, c'est quelque chose d'encore différent de l'insomnie, où on peut rester des heures en errance dans le lit. Mais pour autant, il y a quand même des répercussions sur la qualité de l'éveil, puisque ça veut dire que le sommeil il va être très entrecoupé. Beaucoup, beaucoup de réveils, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle les parasomnies, qui peuvent être très répétées, qui peuvent être vraiment très, très handicapantes aussi et agir sur la qualité du sommeil. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, les terreurs nocturnes, la paralysie du sommeil, ça va être le somnambulisme. En fait, tout ce qui tourne autour du sommeil et qui fait que la personne, elle ne va pas vivre sans sommeil de façon, on va dire, normale, même si je mets des gros guillemets au normal. En tout cas, ce sont des choses qui sont un petit peu différentes de ce que peuvent vivre la majorité des gens.
Très bien, merci pour ces précisions. Maintenant, question, d'où viennent les troubles du sommeil et d'où vient l'insomnie? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est comportemental? D'où ça provient?
Alors, en fait, si je pouvais répondre à ta question là, juste en l'espace d'un podcast, je pense qu'il n'y aurait plus jamais d'insomnie et de troubles du sommeil chez personne. Parce que si c'était, entre guillemets, si simple et qu'on pouvait, tu vois, juste le décrire comme ça, en quelques mots, je pense pas qu'il y aurait, comme tu le disais en tout début de notre échange, une recrudescence d'insomnie et de troubles du sommeil. C'est parce que justement, c'est compliqué de savoir d'où ça vient. Cependant, il y a quand même quelque chose, on va dire, si on remonte, tu vois, à la cause de la cause, qu'on vient chercher un peu la racine de tout problème, on peut donner une explication. Mais quand je vais donner l'exemple, enfin quand je vais expliquer, ça va faire sens pour tout le monde. Mais il faut vraiment garder en tête que on est tous des individus différents, on a tous un parcours de vie différent, on a tous des casseroles différentes. Et donc effectivement, le trouble du sommeil, il peut venir de plein de sources différentes. Alors tu citais la composante génétique, j'y reviendrai juste après. Mais en tout cas, quelle que soit la cause pour la personne, il y a quand même quelque chose qu'on peut évoquer. Comme je disais, si on revient à la cause de la cause, à la racine, c'est le déséquilibre que va avoir le corps. En tout cas, les déséquilibres, parce que souvent il y en a plus qu'un, que va avoir le corps pour réguler sa fonction sommeil. Alors, pour bien comprendre ça, je vais partir dans quelques explications sur le sommeil. Le sommeil, c'est pas quelque chose d'à part de notre corps. C'est pas quelque chose qui... Souvent, on se pose pas la question parce qu'en fait, on dort depuis qu'on est tout petit. C'est un petit peu comme la respiration. Je sais que tu as déjà fait des podcasts autour de la respiration. On se pose pas de questions pour ce qui est tout le temps avec nous. On considère ça un peu comme acquis. Le sommeil, ça en fait partie. On se pose pas trop de questions sur son sommeil tant qu'on n'est pas confronté à des difficultés. Et donc, le sommeil, c'est pas quelque chose d'à part. Ça fait vraiment partie de notre fonctionnement physiologique. C'est une fonction innée. On va commencer même à dormir, à avoir une alternance entre la veille et l'éveil in utero, à partir de 24-26 semaines de vie in utero. Et donc tout ça se met en place petit à petit, et puis ça va maturer à la naissance dans le cerveau. Tous les mécanismes vont se mettre en place, et un bébé entre 4 et 6 mois, eh bien sa fonction sommeil va arriver petit à petit à maturité, c'est-à-dire que son corps va tout à fait être capable d'identifier les moments de journée et les moments de nuit. Donc même s'il va dormir en journée, ça restera des moments où lui, il sait qu'il est en journée. Donc c'est assez fou, hein, c'est-à-dire que ça se met en place comme ça de façon tout à fait naturelle. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que souvent j'entends qu'il faut apprendre à dormir, ou réapprendre son corps à dormir. En fait non, notre corps, il sait tout à fait dormir, on n'a pas besoin d'apprendre à dormir. Ce qu'on a besoin de faire, c'est d'apprendre à ne pas entraver ces mécanismes naturels du sommeil. Les deux mécanismes qu'il faut citer pour le sommeil, c'est bien sûr le fait de se sentir fatigué, on peut appeler ça la pression de sommeil, balancier homéostatique pour ceux qui apprécient les termes un petit peu plus scientifiques, et puis cette balance hormonale entre notre hormone de l'éveil, le cortisol, et notre hormone de sommeil, la mélatonine. Donc ces deux mécanismes-là, ils se mettent en place sans qu'on y pense, d'accord ? C'est vraiment important de considérer ça. C'est pas notre conscience qui fait qu'à un moment donné, on va se dire, tiens, et si je produisais là maintenant tout de suite de la mélatonine? Ça n'a pas de sens à l'échelle de notre corps. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut porter notre attention, notre conscience, qu'on peut décider ou pas, faire des choix éclairés, tout ce qu'on veut. Mais ça, en l'occurrence, c'est notre corps qui va décider. À partir du moment où on le met dans de bonnes conditions. Et donc là, j'arrive peut-être petit à petit pour reboucler avec mon propos initial, à savoir que lorsque ces mécanismes du sommeil se retrouvent entravés par différentes choses, et là vraiment les raisons sont multiples, eh bien, la fonction sommeil ne peut pas se mettre en place comme elle le devrait. Soit au niveau de l'endormissement, soit au niveau de la qualité de la nuit, soit au niveau de la durée de la nuit, etc. Tout ce que j'ai cité jusqu'à maintenant. Et donc là, on se retrouve dans un trouble du sommeil. Donc, pour sortir de son trouble du sommeil, que ce soit de l'insomnie sévère, chronique ou des troubles plus épisodiques, il faut toujours venir chercher qu'est-ce qui entrave ma fonction sommeil. Quel est l'un des deux piliers, peut-être les deux piliers du sommeil que j'ai évoqués, qui est mis à mal? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps qui fait que là, aujourd'hui, mon sommeil, il peut pas arriver. Mon corps peut pas aller directement vers le sommeil. Alors, il va y aller peut-être quelques heures, peut-être qu'il va y aller suffisamment, mais en fait, on se sent quand même tout le temps fatigué. Ça, c'est aussi un problème. La quantité ne veut pas dire qu'il y a de la qualité derrière. Et donc voilà, pour répondre de manière la plus concise possible, la plus, juste possible et adaptée pour tout le monde, c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est que le trouble du sommeil, c'est le symptôme qu'il y a un déséquilibre quelque part, un ou plusieurs dans le corps. Après, bien, c'est un petit peu comme si, tu vois, on mettait un peu la casquette de Sherlock Holmes et puis qu'on va venir enquêter et savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la relation à son sommeil? Qu'est-ce qui se passe au niveau des habitudes de sommeil? Qu'est-ce qui se passe au niveau du discours interne, de l'histoire qu'on se raconte dans notre tête, etc., etc. Et là, on va venir voilà détricoter, tirer les ficelles de la pelote, et ensuite pouvoir agir en fonction de ça.
Super. Donc, au regard de ton expérience, des accompagnements que tu as pu mener, as-tu quand même remarqué potentiellement des récurrences, des schémas, oui, des choses prépondérantes par rapport aux autres qui font que les gens effectivement tombent malheureusement dans un trouble du sommeil?
Oui, alors il y a deux façons là de répondre à ta question. Il y a déjà cette notion de facteur déclencheur ou de maintien, tu vois. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de la partie génétique, mais là du coup on va pouvoir aborder ce point-là, parce que effectivement il y a une petite composante génétique dans le sommeil, mais qui est pas toujours là où on le pense. Certaines personnes vont dire, oh bah tiens, vu que mes parents étaient insomniaques, moi je suis insomniaque aussi. Ça pour le coup c'est vraiment une idée reçue, c'est-à-dire ce qu'on va hériter de nos parents, ou en tout cas de notre lignée, ça va plutôt être, est-ce que on est des petits ou des gros dormeurs, est-ce qu'on est plutôt du matin, plutôt du soir, tu vois, plutôt lève tôt ou lève tard. Mais finalement cette composante génétique du sommeil, elle reste quand même assez infime. En tout cas, ça peut faire partie des facteurs de, on va dire, prédisposants aux troubles du sommeil. Si effectivement, je sais pas, même dans ses parents, chez ses parents, chez ses grands-parents, il peut y avoir une difficulté, par exemple, à gérer ses émotions ou son stress. Bon, ça peut être une composante, peut-être, qui prédispose aux troubles du sommeil et qu'on peut retrouver chez la personne. Mais en tout cas, les facteurs prédisposants, ils sont pas si importants que ça. Après, on va avoir les facteurs déclencheurs du trouble du sommeil. Et là, finalement, ça va dépendre. Ça peut être de très très mauvaises habitudes autour du sommeil, même si ce mot mauvais, je sais pas s'il peut être très bien placé, en tout cas, des habitudes qui sont pas favorables à notre physiologie et du coup qui vont petit à petit vraiment faire complètement basculer dans l'insomnie ou dans les troubles du sommeil. Ça peut être aussi, bien sûr, malheureusement, des événements de vie. Ça peut être un licenciement, un déménagement, un mariage, l'arrivée d'un enfant, un décès, une séparation. Voilà, tous ces événements de vie qui, à un moment donné, font faire un trop-plein, trop grosse difficulté à gérer, et vont venir justement déséquilibrer certaines choses au niveau mental et physiologique, et se traduire par un trouble du sommeil. Et après, on a ce qu'on appelle les facteurs de maintien. Donc parfois, on peut se retrouver avec un trouble du sommeil qui a démarré il y a peut-être 10 ans en arrière. L'élément déclencheur, il est plus là. On est peut-être même passé à autre chose. Si par exemple, c'était, je sais pas, par exemple, un enfant qui dort pas. qui fait basculer le parent dans un gros trouble du sommeil. Puis petit à petit, bah, l'enfant il dort, puis le parent il dort toujours pas. Et il peut y avoir des facteurs de maintien, comme ça, qui entretiennent l'insomnie alors que le facteur déclencheur n'est plus là. Donc, facteur prédisposant, facteur déclencheur et facteur de maintien. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes à aller regarder, parce que finalement, les actions qu'on va venir mettre pour sortir du trouble du sommeil seront différentes. On va pas activer les mêmes leviers en fonction de tout ça. Donc c'est une des façons de répondre à ta question qui, bien sûr, est très pertinente pour essayer d'avoir, tu vois, le tableau le plus large possible. Une autre façon d'y répondre serait de dire que, de façon générale, dans notre société, on a vraiment des très mauvaises habitudes autour du sommeil. Aussi des très mauvaises habitudes au niveau de l'alimentation, qui a un lien direct avec le sommeil. Et donc, de façon générale, c'est ce qu'on va retrouver dans les troubles du sommeil. Mais tu vois, ça reste quand même assez large parce que finalement, en fonction de chaque individu, ça va être différent. Donc, les mauvaises habitudes au niveau de la société, ça va surtout être l'omniprésence des écrans artificiels, des lumières artificielles, dont les écrans. Le fait d'être beaucoup moins dehors qu'avant, de faire beaucoup moins d'activités sportives, d'activités physiques, d'être beaucoup moins en extérieur, d'être aussi beaucoup moins en lien avec les autres. On est quand même de façon générale beaucoup plus isolé. Or, nous sommes des êtres sociaux et on a besoin de ce lien avec les autres. En tout cas, aujourd'hui, à part les liens sur les réseaux qui sont pas vraiment des vrais liens, c'est pas si évident de passer du temps avec des gens avec qui on a envie de passer du temps. Et donc ça peut... C'est pas favorable, en fait, au sommeil. Ça peut quand même constituer comme une source d'insécurité, tu vois. Et le sommeil, il est vraiment très lié à la sécurité. On pourrait y revenir, si tu veux, par la suite. Et puis, bah après, effectivement, l'alimentation qui peut venir entraver le sommeil, tu vois, avec tous les perturbateurs endocriniens, avec les métaux lourds, les produits chimiques, les produits toxiques, tout ça, ça fait que notre corps, lui, il peine, hein, tu vois, il galère toute la journée pour essayer de fonctionner correctement. Et la fonction sommeil, bah, elle peut en pâtir. Et une alimentation qui est beaucoup plus pauvre en ce dont on a réellement besoin. Je pense notamment aux micronutriments, tu vois, toutes les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Bah, en fait, si notre alimentation, elle est pauvre en ça, ça veut dire que notre corps, il va pas pouvoir avoir ces ressources-là. Or, il en a besoin pour mettre en place le sommeil. Le sommeil qui est une fonction, comme on l'a dit, hormonale. Et puis aussi, qui met en jeu le système nerveux avec les neurotransmetteurs et avec toutes ces molécules qu'on synthétise grâce à notre alimentation. Et c'est pour ça que ce lien, qui peut paraître parfois un peu lointain, quand on le ramène, tu vois, au béaba, de comment notre corps il fait pour créer une hormone, bah oui, en fait, il tire ça de son alimentation. Donc ça veut dire que ce qu'on mange, ça va influer directement sur ce qui se passe pour nous au niveau moléculaire et biochimique.
C'est très intéressant, notamment... On peut tirer un lien supplémentaire également, dis-moi ce que tu en penses. Le fait que certes, effectivement, l'alimentation soutient ou justement nuit au sommeil, comme tu viens de le dire, mais également le manque de sommeil vient directement entraver cette notion de bien manger, notamment qu'un dérèglement des hormones de la faim que sont la leptine et la gréline. On a davantage faim qu'en manque de sommeil par pure programmation évolutive, car qui dit manque de sommeil dit besoin de ressources énergétiques pour survivre, donc qui dit j'ai besoin de manger des aliments à haute calorie. Et aujourd'hui, les aliments à haute calorie sont souvent des aliments, comme tu as pu le citer, qui sont malheureusement négatifs pour le sommeil. Donc un cercle vicieux peut se mettre en place par rapport à ça. Est-ce que c'est un mécanisme que tu as pu, toi, identifier potentiellement chez tes patients jusqu'à présent?
Ouais. Alors par contre, on dit pas patient, on dit client. En fait, on n'est pas médecin, justement, quand on est consultant sommeil. Et du coup, moi, par rapport à mon activité, que ce soit avec l'approche naturopathique que j'ai ou la partie coach sommeil, on ne dit pas patient. Et je pense que c'est important de le souligner, effectivement, parce que moi, tout ce que je vais apporter, ça va jamais être une prescription médicamenteuse, ça va pas être accompagner les gens dans la sortie de leurs antidépresseurs, leurs anxiolytiques, etc. Ça va vraiment être de l'ordre du conseil, tu vois, comportemental, hygiène de vie, hygiène de sommeil, hygiène émotionnelle, hygiène oui, alimentaire aussi. Bien sûr qu'on parle de physiologie parce que c'est la base, mais tu vois, pas d'un point de vue médical. Je referme la parenthèse, mais je pense que c'était important de le souligner. Et du coup, ta question était autour de l'alimentation, mais carrément, c'est un cercle vicieux, mais en fait, avec le sommeil, tout est un cercle vicieux. C'est-à-dire que tout va dans les deux sens. Effectivement, l'alimentation va avoir un rôle sur le sommeil a un rôle sur la façon dont on se nourrit, et oui, le fait d'être très fatigué va pousser à des changements alimentaires. Alors ça peut être des compulsions alimentaires tournées principalement vers le sucre, bien évidemment, mais ça peut être parfois justement le fait de ne pas pouvoir manger, donc à l'inverse, de se sous-alimenter, parce que une sous-énergie en fait très très importante, et rien que le fait de manger peut vraiment dégoûter les gens. Il y a vraiment les deux. Il y a le fait de se suralimenter, ou alors de grignoter tout le temps et d'avoir des compulsions alimentaires, ou alors il y a le fait de se désintéresser complètement de l'alimentation et finalement d'être en sous-alimentation. Ce qui à nouveau est un cercle vicieux, parce que lorsqu'on se sous-alimente à tout niveau, que ce soit en micro ou en macronutriments, hein, donc les vitamines, les minéraux, ou alors tu vois, glucides, lipides, protéines, je pense que les gens qui nous écoutent sont familiers avec ces termes-là. Et ben du coup, ça va aussi induire que le sommeil pourra se mettre en place moins facilement. Si je prends le cas des protéines qui sont composées d'acides aminés, ben ce sont ces acides aminés qui vont permettre de synthétiser de la sérotonine, qu'on va utiliser pour synthétiser de la mélatonine, que je citais tout à l'heure en tant que hormone induisant le sommeil. Et donc tu vois, en fait, quand on parle de cercle vicieux, c'est vraiment ça. Donc l'idée, c'est à un moment de pouvoir activer certains leviers qui vont permettre de rompre ça et de pouvoir retrouver un petit peu d'énergie qui sera allouée à autre chose, qui permettra d'en retirer encore plus de l'énergie, tu vois, et puis petit à petit d'aller mieux. Donc oui, tout à fait, un vrai lien entre alimentation et sommeil dans les deux sens. Et puis c'est vrai qu'on peut même aller plus loin, et d'ailleurs ça c'est vrai aussi chez les jeunes malheureusement, à savoir que, par exemple, on associe beaucoup le diabète de type 2, notamment l'obésité, ou les troubles du comportement alimentaire à un manque de sommeil. Parce que le sommeil, il va avoir, au-delà de la pure fonction hormonale, il va aussi avoir un lien sur notre psyché, sur notre mental, et du coup sur la conscience qu'on va porter sur tout ce qui se passe dans notre vie, et du coup aussi sur l'aliment. Bon, là du coup je vais peut-être un petit peu plus loin, mais en tout cas c'est lié à tout niveau.
Tu as parlé précédemment également de l'impact des écrans, tu fais écho naturellement à la lumière bleue. Peux-tu décrire un peu le schéma? Effectivement, on en entend très souvent parler comme quoi les écrans le soir peuvent nuire au sommeil, soit à sa qualité, soit à sa quantité, peuvent repousser également l'horaire de coucher. Mais peux-tu expliquer précisément ce qui se passe au niveau du cerveau humain quand on est effectivement exposé à une lumière bleue le soir? Qu'est-ce qui empêche de dormir? Quel est le lien entre l'écran et le trouble du sommeil, ou potentiellement le manque de sommeil qui s'ensuit?
Bah oui, et ta question, elle est vraiment top, parce que moi, j'aimerais bien qu'en fait, la question, elle chemine dans l'esprit de tout le monde. Et tu sais pourquoi? Parce que quand on vient poser des conseils, quand on vient partager des choses, souvent les gens, ils prennent juste le conseil sans le mettre dans le contexte et sans se demander pourquoi. Et du coup, dans une autre situation dans leur vie, ben en fait, ils ne pourront pas utiliser ce conseil-là. Et donc effectivement, quand on comprend ce qui se passe dans le cerveau au niveau de la lumière, en fait, on a même presque plus besoin qu'on nous donne de conseils. C'est-à-dire qu'on va comprendre, on va savoir ce qu'il faut faire le matin, en journée, le soir, ou ce qu'il faut pas faire. Donc effectivement, c'est le chemin le plus intéressant, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon corps à ce moment-là. Donc là, pour cette histoire de lumière. En fait, nos yeux, ils ont la capacité de venir capter la lumière. Alors là, vous allez me dire, capter nos yeux, c'est génial, ça je sais, c'est comme ça que je vois ce qui se passe. Mais ça va bien au-delà de ce qu'on conscientise et de ce qu'on est capable d'intellectualiser. C'est-à-dire qu'on va capter l'intensité du spectre lumineux, on va capter même si les rayons sont plus obliques ou pas. On va capter justement quel est le spectre lumineux, en fait, sur des choses qu'on ne... presque qu'on n'a pas l'impression de percevoir. Et toutes ces informations-là vont transiter dans le cerveau, vont être traitées au niveau des noyaux suprachiasmatiques. Donc c'est une petite partie dans le cerveau qui va justement traiter ça. Et ensuite, qui va envoyer, un petit peu comme des ordres, oui, tu peux faire ça, non, tu peux pas faire ça, à d'autres parties du cerveau, ou alors, par la suite, par cascade, à nos organes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il va envoyer le signal à notre glande pinéale. Oui, tu produis de la mélatonine? Non, tu n'en produis pas. Il va envoyer le signal, en passant bien sûr par la glande pituitaire, le signal à nos glandes surrénales. Oui, tu produis du cortisol? Ou non, tu n'en produis pas. Et ça pour tout, au niveau de la thyroïde. Oui, tu augmentes le métabolisme? Non, tu le ralentis. Ou tu augmentes la température? Non, tu la ralentis. Et ça, c'est ce qui fait qu'ensuite, on va pouvoir aller vers le sommeil, aller vers l'éveil. Et qu'il y a cette alternance aussi, hein, jour-nuit, sur notre rythme de 24 heures, le fameux rythme circadien. Donc, quand on voit la lumière naturelle, avec une forte composante de lumière bleue, qui va être intense, tu vois, la lumière du matin ou la lumière de la journée, ça vient bloquer la sécrétion de mélatonine et ça vient demander à nos glandes surrénales de produire du cortisol, notre hormone de l'éveil. L'inverse, il fait nuit, plus de lumière. Ok, on libère la production de mélatonine, on vient couper la production de cortisol. En fait, d'une certaine façon, c'est presque aussi simple que ça. Bon, on peut rajouter la température, ce que je disais là au niveau de la thyroïde, ça va aussi venir dire à nos organes. Voilà, on passe pas dans un mode de digestion, par exemple, pour tout ce qui est pancréas, foie, intestin, mais on va venir passer dans un autre mode, c'est-à-dire régénération d'eux-mêmes, en fait, de nos propres tissus, détoxification, élimination, etc. Donc, en fait, c'est ça, la lumière. Et qu'est-ce qui se passe quand, il y a à peu près 150 ans en arrière, Edison, permet de commercialiser l'éclairage artificiel et que dans chaque foyer, on va se retrouver avec de l'éclairage artificiel. Bah, rien que là, ça perturbe ce rythme circadien. Pourquoi? Parce que à 22h, quand il fait nuit dehors, en fait, il fait jour dans les intérieurs. Donc là où nos yeux et tout notre organisme doit percevoir des signaux de « je produis de la mélatonine, je calme tout mon métabolisme, je vais vers le repos », bah non, en fait, on peut rester en éveil. C'est même pas qu'on peut rester en éveil, c'est qu'en fait, nos yeux et notre cerveau va demander à tout le corps de rester en éveil. Ça a été amplifié avec la télévision, hein, dans les années 60, la télévision, le moment du soir où on ne travaille plus et où on a enfin du divertissement à la demande. On reste devant les écrans un petit peu plus tard que quand il y avait rien du tout forcément, donc exposé à la lumière, j'entends un petit peu plus tard. Et puis là, on n'en parle même pas, hein, depuis une trentaine d'années, avec les écrans d'ordinateur, le smartphone qu'on a de greffer à notre main du matin au soir, la tablette et tout ce qui s'ensuit, avec des éclairages en plus qui sont maintenant des éclairages à LED, donc qui sont en plus beaucoup plus intenses et avec un spectre de lumière bleue beaucoup plus important qu'avant, que les éclairages qu'on avait avant. Tout ça mis bout à bout, avec en plus un accès au divertissement qui est énorme, eh bien on se retrouve sur les écrans jusque très tard. Donc, notre corps se sent fatigué, mais nos yeux nous disent « c'est le jour ». Donc oui, ça crée des troubles de l'endormissement, parce que quand on va venir couper tout ça, il va falloir un temps pour que notre corps puisse sécréter de la mélatonine. Une heure et demie, deux heures. Si toutefois, on arrive à en sécréter autant et que ce soit pas juste un bébé sécrétion qui ne permette pas de faire toute la nuit et qui viennent nuire à la qualité du sommeil, parce que le fait qu'on puisse avoir un sommeil très récupérateur vient aussi de notre capacité à pouvoir produire suffisamment de mélatonine. Donc là, je suis pas rentrée jusqu'à maintenant sur les différentes phases de sommeil. Je sais pas si tu voudras qu'on y revienne. Mais en tout cas, c'est sûr que notre corps a besoin de sommeil qu'on appelle profond, vraiment très récupérateur, pour se sentir bien et pour aussi que toutes nos facultés mentales, cognitives, d'apprentissage, émotionnelles aussi, le lendemain, puissent être à leur top niveau.
Justement, je voulais l'aborder juste après, quand on parlera ensemble des conséquences d'un manque de sommeil, notamment au niveau de la physiologie ou au niveau de la cognition, comme tu as pu commencer à en parler. Mais avant ça, plusieurs éléments qui me viennent à l'esprit suite à ton écoute. Déjà, élément important, je pense que peu de personnes en ont conscience, mais l'œil est une extension du cerveau directement.
Carrément.
Carrément. Ça, mais en fait, l'œil, c'est tout simplement un bout du cerveau qui est à l'extérieur de la boîte crânienne, pour montrer l'importance de l'œil aujourd'hui.
Et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec des neurones à mélanopsie qui viennent justement, on capte les informations et c'est eux qui permettent de renvoyer, c'est justement parce qu'on a des neurones à ce niveau-là, et qui permettent de renvoyer les informations et d'être en contact direct avec notre hypothalamus et avec tout le reste du cerveau.
Et il me semble également, d'après ce que j'ai pu lire, tu viendras l'infirmer ou le confirmer, comme quoi c'est la fatigue de la rétine, la fatigue oculaire en soirée, qui nous rend particulièrement sensibles à la lumière bleue. Et comme quoi une faible lumière bleue en soirée pourrait justement suractiver tous les circuits que tu as décrits précédemment. Nous maintenant dans un état d'éveil et nous plongeons pas dans un état de sommeil.
Oui, 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 tout à fait. Effectivement. Et c'est pour ça aussi que on conseille, par exemple, de mettre soit de jouer sur les filtres d'écran d'ordinateur le soir, soit aussi sur les lunettes, enfin sur certains accessoires, parce que justement, c'est là où nos yeux sont les plus sensibles. Mais il faut vraiment garder en tête, là du coup, ça dérive un tout petit peu de notre sujet du jour, qu'est le sommeil, mais cette lumière bleue qui est omniprésente devant nos yeux, c'est vraiment pas naturel, encore une fois. C'est-à-dire que normalement, nos yeux, ils sont pas censés être exposés du matin au soir à ce spectre lumineux-là, qui est tout le temps le même et qui est relativement intense. Et d'ailleurs, on s'en rend compte bien malheureusement chez les tout-petits, qui sont chez les enfants, qui sont exposés aux écrans depuis très 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 jeunes, depuis vraiment même leurs premières années de vie. Eh bien, en fait, ils peuvent vraiment avoir les yeux particulièrement abîmés en grandissant, mais à 3, 4, 5 ans, 6 ans, très très abîmés, à cause de la lumière bleue. Alors que ça n'existait pas. Il y a encore 50 ans en arrière, c'était même personne ne pouvait imaginer ça. Ça n'existe pas, ça, dans la nature. C'est-à-dire que on est habitué et on est designé, en tout cas, équipé pour être dehors toute la journée. Et puis nos yeux sont protégés et sont protégés aussi la nuit. Mais là, c'est tellement intense et nos yeux fatiguent tellement vis-à-vis de ces écrans qu'on va se retrouver avec ce type de répercussions.
Et que penses-tu justement dans cette lignée-là, dans cette suite-là, des lunettes à filtre à lumière bleue ? Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Quel est ton point de vue par rapport à ça ?
Alors, de ce que j'en sais, de ce que les études en disent aujourd'hui, il y a une efficacité. Mais c'est pas du 100% efficace. C'est-à-dire que ça va venir filtrer une certaine partie de la lumière bleue. Mais pas tout le spectre lumière bleue, par exemple. Tu vois, ça va filtrer, parce que c'est quand même assez large. C'est vrai que j'ai pas de schéma là pour montrer, c'est dommage, mais en fait, le spectre lumière bleue, il s'étend, il est quand même assez étendu. Et du coup, les lunettes vont venir prendre une partie de ce spectre-là. Et donc, vont dire, par exemple, ça filtre 99% du spectre de lumière bleue de temps à temps. J'ai plus les chiffres en tête. Mais donc, du coup, en fait, c'est pas tout. Donc, moi, je considère que ça aide. Et effectivement, quand on a une réunion tardive le soir, si on est obligé de, finir un dossier, qu'on a un truc, un webinaire, un live, je sais pas quoi, tu vois, en soirée, ça peut être super d'avoir ces lunettes-là pour pas se ruiner sa nuit. Maintenant, est-ce que c'est une fin en soi? Non. Et la raison, elle réside pas que dans la lumière. C'est aussi parce que justement, les écrans et tous ces devices-là qu'on a et qui sont fortement producteurs de lumière bleue, ça vient agir sur un autre pan du sommeil, c'est-à-dire la nécessité qu'a le corps de ralentir, de se distancier de son environnement pour aller vers le sommeil. Tu vois, il a besoin d'être comme dans un cocon, en fait, et de venir se recentrer sur lui-même. C'est-à-dire qu'on va vraiment être... on a besoin de cette introspection au moment du coucher, ce retour à soi. Quand on est connecté, que ce soit avec tous les filtres que tu veux sur ton ordinateur, que ce soit avec n'importe quelle paire de lunettes ou si t'en mets trois l'une sur l'autre, ça n'empêchera pas que tu es en interaction avec 10 notifications d'un coup, que tu vas regarder tes mails, que tu vas regarder tes messages, que tu actives ton système dopaminergique en permanence, que tu peux entretenir de la frustration pour quelque chose qui ne vient pas, une réponse que t'attends qui vient pas, ou alors de la colère pour tel ou tel truc. Et pendant que tu fais tout ça, qui est vraiment aux antipodes de ce dont le corps a besoin pour aller vers le sommeil, tu ne fais pas ce dont ton corps a besoin. Tu vois, ça joue sur les deux aspects. Donc à la fois tu fais des trucs ça l'entrave, et à la fois tu ne lui apportes pas ce dont il a vraiment besoin. De quoi il a besoin? En fait, il a besoin à un moment donné d'avoir de l'espace pour lui-même, d'être connecté à lui. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez amusant, c'est-à-dire que, amusant, façon de parler. Quand on a des journées et des semaines qui sont ultra intenses, tu peux te retrouver, moi je l'ai expérimenté par le passé, justement en ne veillant pas à cette hygiène émotionnelle tout au long de ma journée, et je l'ai vu chez énormément de mes clients jusqu'à maintenant, c'est le fait que lorsque c'est trop dans la journée, trop intense, les journées, les semaines s'enchaînent, et bien finalement, le corps il va apprécier avoir du temps la nuit. Et du coup, en fait, ça va générer des réveils nocturnes. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moment où en fait on n'a rien à faire. Et c'est le moment où on va se mettre à peut-être digérer certaines choses, on parle de digérer ses émotions, où on va venir peut-être essayer de résoudre certains problèmes, on va venir essayer d'avoir plus d'espace mental, peut-être parfois des espaces créatifs aussi. Et puis on se rend compte que ça, quand on se l'accorde en journée, ou le soir, lors d'un rituel du coucher, des habitudes de coucher, plutôt que de scroller sur les écrans, eh bien les réveils, ils disparaissent En fait, ça tout ça, c'est très intriqué. Ça fait vraiment des pièces de puzzle qui vont ensemble. Mais c'est important de le considérer. Parce que du coup, par quoi on commence? Ça peut être par ça, justement. C'est très efficace.
C'est vraiment passionnant et je vais rebondir par rapport à une étude que j'ai lue récemment, une découverte qui a été faite, je crois, autour des années 2010, voire 2020, le phénomène du revenge bedtime procrastination. Je sais plus si tu connais ce phénomène-là. Le phénomène par lequel, tout simplement, les personnes, effectivement, vont scroller au moment du coucher, souvent dans leur lit, carrément, sur leur téléphone, sur les réseaux, etc., suite à une journée qui a été frustrante pour elles. Parce que le fait de scroller au niveau cérébral laisserait sous-entendre à la personne qu'elle reprend le contrôle sur sa vie. Et ce qui est, on va dire, dangereux avec ce mécanisme-là, c'est que du coup, le temps de scroll déjà expose les personnes à une lumière bleue, également repousse leur horaire de coucher parce que les deux sont liés, du coup, risque de créer une fatigue latente le lendemain qui va gâcher la journée future et qui risque à nouveau de les replonger le soir même dans le même phénomène. Est-ce que tes clients, désolé pour la confusion, sont également exposés à ce type de problème-là, à être addicts presque aux écrans ou au téléphone le soir avant de se coucher, par cette notion de « je me venge en quelque sorte de ma journée qui a été frustrante ».
Alors, oui, moi je sais pas dans quelle mesure c'est énoncé comme quelque chose de très fréquent ou pas. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a plusieurs phénomènes derrière le fait d'être sur les écrans le soir. Il peut déjà y avoir le fait d'avoir un regain d'énergie le soir. Énormément de personnes vont se retrouver complètement dans le brouillard jusqu'à midi et vont avoir un regain d'énergie le soir. Et donc, c'est là où elles veulent en profiter pour faire plein de choses qu'elles n'ont pas pu faire dans la journée. Parce que ça peut être justement dans cette courbe de cortisol que tu vois qui est un peu inversée ou qui est décalée. Ça, c'est une raison un peu plus physiologique, mais ça se retranscrit sur nos actions, bien évidemment. Il peut y avoir cet aspect de reprise du contrôle. On s'est senti très très frustré dans notre journée, on reprend le contrôle. Donc là, ce que tu disais, ça fait sens. Mais il y a aussi et surtout, de ce que je vois, en tout cas moi dans mon expérience avec les personnes que j'accompagne, c'est surtout le fait de tout va tellement vite, de ne pas avoir le temps de prendre du temps pour soi. Et du coup, de se retrouver le soir à vouloir prendre du temps pour soi et à considérer que prendre du temps pour soi, ça passe par les écrans. Donc, je trouve un phénomène vraiment sournois, peut-être plus sournois encore que ce que tu viens d'évoquer, parce que nos écrans et justement les réseaux et tout ce qu'on fait sur les écrans nous apparaît aujourd'hui être... C'est tellement omniprésent que ça nous paraît être le seul truc à faire qui puisse nous apporter... du plaisir, de la satisfaction à un moment donné, et qui puisse représenter une forme de distraction. Et du coup, ça va peut-être te faire sourire, mais moi, souvent, quand je travaille avec mes clients, on imagine, tu vois, un rituel qui serait hors écran, donc une routine du coucher qui serait hors écran et qui aurait tous les avantages de venir justement ralentir le métabolisme, s'apaiser, se calmer, gérer son anxiété, gérer son stress pour préparer la nuit, tu vois, un vrai sas de décompression qui ouvre la porte au sommeil. Et la première remarque de mes clients, c'est « Ah, mais je vais faire quoi du coup ?» Je les comprends en fait. C'est assez fou, mais on en est arrivé là de par cette omniprésence du téléphone dans la main. Et après, quand on réfléchit, on se dit, mais en fait, on peut écouter de la musique, on peut peut-être jouer de la musique, peut-être éventuellement écouter un podcast, mais on peut aussi, par exemple, faire des massages, des automassages, des étirements, si on est sportif, par exemple, ça peut être super agréable. Des jeux de société, personne n'y pense, c'est fou. En fait, se reconnecter avec d'autres choses qui nous mettent en plus souvent plus en lien avec notre famille, notre partenaire, nos colocs, si on vit en colocation, tu vois, des choses vraiment de humaines en fait. Et de laisser ces écrans sur le côté. Donc, tu vois, j'ai peut-être un peu digressé, mais parce que ça me faisait vraiment penser à tout ça. Il n'y a pas que le fait de se venger de la frustration, il y a aussi le fait qu'on ne sait même pas quoi faire d'autre. Pour le coup, pour revenir vraiment à cette notion de revenge là que tu citais, je pense qu'il y a aussi un gros, gros, gros problème dans notre société aujourd'hui et qui se traduit par beaucoup de troubles du sommeil. Tu parlais d'une explosion des troubles du sommeil, mais oui, depuis 70, 80 ans, c'est vraiment phénoménal. Et puis en plus, on dort de façon générale beaucoup moins, mais à tout niveau, même quand on se considère pas comme en difficulté de sommeil ou avec cette étiquette d'insomniaque, etc. C'est lié aussi à une perte de sens, en fait. Une perte de sens de notre vie. Et je pense qu'au travers du fait de scroller sur les réseaux, c'est un petit peu comme si on était en quête de sens, tu vois, en quête d'un truc vraiment intéressant, en quête d'un truc qui nous fasse vibrer, en quête de lien. Ce manque de sens qu'a développé ce neuroscientifique que tu connais, qui est Sébastien Bollard, qui a écrit Le bug humain, ou justement Où est le sens, qui fait que on est dans une sorte d'inquiétude, d'une insécurité permanente parce que les choses autour de nous ne font plus sens. Alors ça peut être d'un point de vue très matériel, mais ça peut être aussi d'un point de vue peut-être un peu plus, tu vois, spirituel en fait. Quel est le sens de ma vie aujourd'hui? Et si tout ce que je fais, mon travail, ça correspond pas à mes valeurs, si je suis en mode poker face toute la journée et que je n'aime pas ce visage que je montre au monde, c'est pas moi. S'il y a rien du matin au soir qui fait sens, notre striatum dans le cerveau, il est tellement en train de clignoter toute la journée en disant insécurité, insécurité, insécurité. C'est ultra dur d'aller vers le sommeil le soir et de se sentir apaisé. Donc ça revient encore à cette notion de sécurité, hein. Il faut vraiment avoir en tête que le sommeil, pour qu'il arrive, il faut qu'on se sente en sécurité. Et je sais que sur le podcast, tu parles souvent justement de l'évolution de l'être humain et de pourquoi on en arrive à avoir certains réflexes aujourd'hui, certaines habitudes, certaines attitudes. Mais en fait, le sommeil, il échappe pas à ça. C'est-à-dire que tu vois, dans le sommeil, c'est loin d'être un long fleuve tranquille, hein. On se retrouve avec différents cycles du sommeil qui s'enchaînent, différentes phases à l'intérieur de chaque cycle. Et entre les différents cycles, on va avoir des micro-réveils, tu vois, qui permettent de venir remonter à la surface, comme le sous-marin là qui remonte à la surface, pour vérifier qu'on soit pas en danger, d'accord, qu'on soit bien dans les mêmes conditions que lorsqu'on s'est couché. Donc la sécurité, le besoin de sécurité, on le retrouve là, puis on le retrouve bien sûr au moment de s'endormir. C'est-à-dire que à un moment donné, il y a des dizaines de milliers d'années en arrière, c'était pas au moment où, je sais pas, on se faisait agresser par une autre tribu, où il y avait un animal sauvage dans les parages, ou alors on était peut-être esselé, c'est-à-dire perdu de son propre clan, que c'était le moment de se dire « Ok, allez, nickel, je m'allonge là, en plein milieu de la savane, pas de problème, je vais faire un somme. » Non. Là, dans ce type de circonstances, le sommeil, il vient pas parce que justement, on a toutes nos hormones, que ce soit le cortisol, mais aussi justement tout ce qui est adrénaline, noradrénaline, qui sont au taquet, parce que notre environnement n'est pas sécurisant, et donc on est maintenu en éveil. Ça veut vraiment dire que pour le sommeil, il faut se sentir en sécurité. Alors aujourd'hui, l'insécurité, elle n'est pas parce qu'on dort tout nu dans la nature, ou parce qu'on risque de se faire agresser par une bête sauvage, mais elle est sur des choses qui sont d'un autre ordre. Parce que c'est d'un autre ordre, on ne le considère pas comme insécurisant, mais notre cerveau, si. D'être en difficulté relationnelle au travail, d'avoir un travail qui n'a pas de sens, ou justement on peut se sentir pas respecté, ou alors le fait d'avoir une charge de travail monstrueuse, le fait d'être en conflit avec ses proches, le fait de pas pouvoir payer ses factures à la fin du mois, etc., etc. En fait, ça, c'est de l'insécurité. Et donc ça, le cerveau, il turbine en fait. Il va chercher des solutions pour se trouver en sécurité. Mais tant qu'il se sentira en insécurité, le sommeil aura beaucoup de mal à s'instaurer sereinement et on aura beaucoup de mal à rester dans le sommeil. Donc là, tu vois, on va à chaque fois un petit peu plus loin, mais ça, il y a quand même cette vraie notion de sens et de est-ce que je suis alignée avec ce que je fais, est-ce que je suis à ma place dans cette vie, qui fait que oui ou non, on va pouvoir se sentir plus ou moins serein vis-à-vis du sommeil. Je sais pas si ça te parle tout ça.
Non, ça me parle beaucoup, notamment cette notion effectivement de stress et de sécurité, comme tu l'as dit. Les Américains ont une expression vraiment très parlante par rapport à ça, qui est « tiger in the room ». On ne peut pas dormir avec un tigre dans la chambre. Parce que le cerveau humain, effectivement, comme tu l'as dit, a exactement les mêmes réactions physiologiques face à un danger physique que face à un danger davantage cognitif et psychique. Donc effectivement, on ne peut pas dormir dans ces conditions-là. Et d'ailleurs, il me semble, à part thérapie, que la position du lit peut être importante dans la chambre par rapport à ça également.
Carrément.
Est-ce que tu veux en parler un peu, notamment chez les enfants?
Alors, chez les enfants, c'est vraiment très marqué. Effectivement, parce que bah, pour eux, c'est quand ils sont tout petits, hein, ils peuvent pas en plus poser tous ces mots-là. C'est vraiment beaucoup de l'ordre du ressenti. Donc, ça va avoir encore plus d'impact. Effectivement, un lit en plein milieu d'une chambre, ou alors qui tournerait où on voit pas la porte, par exemple, ou qui serait pile entre une porte et une fenêtre, bah ça, instinctivement, ça nous met dans un état d'insécurité. L'idéal, c'est d'avoir le lit dans un coin de chambre, et ou en tout cas là où on peut voir la porte. Si quelqu'un rentre dans la chambre, il faut qu'on puisse le voir. Et puis si possible, pas avoir juste une fenêtre derrière sa tête de lit. Ça, c'est pareil, ça peut être relativement insécurisant. Donc oui, tout à fait, mais ça, même en tant qu'adulte, ça peut être plus ou moins manifeste selon les degrés de stress qu'on a, le degré d'insécurité qu'on peut ressentir avec autre chose, et puis ce degré de vitalité qu'on va avoir aussi. Plus une personne va être en sous-vitalité, plus son degré d'insécurité va augmenter parce qu'elle se sent moins capable de faire face aux choses. Et donc plus ce sont des choses à cogiter et peut-être à revoir dans son environnement de sommeil.
Merci. Merci pour ces précisions. Également, tu parles beaucoup de sens. Tu en as parlé longuement précédemment, notamment au regard du striatum qui s'affole quand le sens n'est pas présent. Comment conseilles-tu les personnes que tu accompagnes pour retrouver un sens au niveau de leur vie? Est-ce qu'il y a des conseils, entre guillemets, pas clé en main, c'est pas le bon terme, mais est-ce qu'il y a un chemin sur lequel tu peux les mettre pour les aider si jamais quelqu'un qui nous écoute, qui elle est en quête de sens, justement, à ce problème-là? Quelle serait la première étape à mettre en place pour potentiellement trouver du sens dans sa vie pour retrouver un sommeil potentiellement de qualité? Du moins pour cheminer vers un bon sommeil.
Déjà, je dirais que c'est pas la seule chose à activer. C'est vraiment important de comprendre ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a vu que le trouble du sommeil, il pouvait venir de plusieurs facteurs. C'est la même chose pour sortir du trouble du sommeil. Hein. Ça va être la synergie de plusieurs leviers qu'on active qui va faire que on va vers un meilleur sommeil. Et donc, cette notion de sens, elle fait partie de ces leviers-là. Mais moi, ce que j'invite à faire, c'est ne pas se concentrer que sur ça et de venir mettre en place d'autres choses parce que ça va vraiment potentialiser le truc. Et ben maintenant, en fait, la réponse à ta question, elle est ultra simple et à portée de main puisque finalement, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire savoir que ça existe. À partir du moment où on arrive à conscientiser qu'il peut y avoir de l'importance là-dessus, on va pouvoir y penser. Le fait d'y penser, ça va permettre de poser certaines choses, de se rendre compte. Quand on s'en rend compte, on va pouvoir commencer à se dire qu'il faudrait agir dessus. Et là, déjà, il y a beaucoup de choses qui se sont enclenchées. Parce que quand on se dit qu'il va falloir agir dessus, bah, petit à petit, ça ouvre la porte au fait qu'on agisse dessus. Et donc, de se dire que tout ne va pas pouvoir être réglé comme ça, en un claquement de doigts, en l'espace de 15 jours, mais par contre, qu'on va pouvoir poser des jalons et se dire « Ok, mais en fait, ça... c'est pas ok dans ma vie. Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Ok, j'ai cité 4 choses qui là vraiment me semblent essentielles. J'en prends une qui me paraît être la plus accessible et je vais travailler là-dessus. Ça peut être des choses un peu bêtes, hein, mais ça peut être en fait dans mes relations là aujourd'hui. En fait, je suis sans cesse en train de voir une personne avec qui je me sens super mal. En fait, ça m'apporte rien de voir cette personne-là. Bah peut-être que je vais passer de moins en moins de temps avec cette personne-là. Je parle même pas de relations toxiques ou de pervers narcissiques, hein. Je parle juste des relations qui font pas sens pour nous, où on se sent pas bien. Ben, je vais passer plus de temps avec d'autres personnes qui m'apportent plus de bien-être et pour qui ça fait plus sens, je me reconnais plus. Ça peut être aussi de se dire que là, dans son travail, on n'est pas bien, on n'est pas épanoui, alors qu'il y a d'autres choses qui nous appellent beaucoup plus. Ben, rien que de poser des mots et de commencer à se le dire, ça ouvre la porte. C'est-à-dire que quand on n'a pas conscience de ça, on peut pas agir dessus. On peut pas agir sur quelque chose qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas conscience, qui n'est pas, tu vois, qui n'a pas été posé à un moment donné. Donc en fait, le premier pas, bah, c'est presque peut-être ce podcast pour une personne qui pourrait manquer de sens dans sa vie. Ça peut être ce podcast en disant ah ouais, ah mais en fait ça faut que j'y réfléchisse. Puis après ça peut être de lire un bouquin, tu vois, de lire les bouquins de Sébastien Boller. Ça peut être d'écouter une ou deux conférences. Ça peut être de se dire ah ok, mais en fait là je suis en train de courir après quelque chose qui ne fait pas sens pour moi. C'est-à-dire que je sais pas, par exemple, tout mon argent, je l'investis pour, je sais pas, pour avoir une plus belle voiture, je sais pas, une montre hors de prix, un truc comme ça. Mais en fait, ça fait pas sens ça dans ma vie. C'est-à-dire, c'est pas ça vers quoi moi je veux tendre. Je fais ça parce que finalement tout le monde fait ça dans mon entourage, mais où est le sens derrière tout ça? Ce ne sont que des exemples. Franchement, je pourrais en citer plein. Peut-être que toi, il y en a d'autres qui te viennent en tête et que tu souhaiterais citer. Mais en tout cas, première étape, bah d'en prendre conscience. Donc voilà, ça y est, chose faite maintenant. Deuxième étape, de vraiment se poser par rapport à sa propre vie. Et troisième étape, se mettre des jalons et se dire « Ok, je vais travailler sur ça, 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 ça. »
J'aime beaucoup la façon dont tu l'abordes parce que je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais tu parles tout de supprimer avant d'ajouter. Du coup, tout le principe de la via negativa de Nassim Nicholas Taleb qui explique tout simplement qu'il vaut mieux commencer par supprimer ce qui ne va pas avant d'ajouter des choses supplémentaires. Est-ce que c'est conscient, est-ce que c'est inconscient, est-ce que c'est un conseil que tu donnes, toi, personne que tu accompagnes, de supprimer avant d'ajouter, de façon générale?
Alors, ouais, c'est intéressant que tu poses ta question de cette façon-là. En fait, moi, je base, c'est un oui et un non, en fait. Ma réponse, elle est un oui et un non, mais je vais t'expliciter tout ça. En fait, toute mon approche, elle est basée sur le fait que, d'un point de vue trouble du sommeil, tu vois, d'un point de vue déséquilibre physiologique, émotionnel, etc., dans notre corps. Il y a deux raisons à ça. Souvent, c'est parce qu'en fait, on donne trop, on fait trop, on dépense trop. On n'a plus les ressources physiques, mais on continue de dépenser énormément. Et aussi parce que la pression de l'environnement, elle est justement très très importante sur nous, d'accord ? Donc l'idée, c'est de venir rééquilibrer tout ça en venant réduire la pression de l'environnement et en venant se renforcer. Se renforcer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, tu vois, il y a énormément de personnes qui me sollicitent et qui me disent « Moi, en fait, je suis anxieuse de nature, un rien me fait stresser, je peux faire des crises d'angoisse. » Là où les autres ne sont pas tracassés, moi, je le suis. Bah, se renforcer, ça veut dire « Ok, on prend une chose, un stresseur qui, aujourd'hui, te tracasse. On va venir travailler, utiliser des outils. » Prendre son temps, déjà se rendre compte de ce qui se passe, pour qu'ensuite ce même stresseur, il n'ait plus le même impact sur toi. Donc tu le verras presque plus comme un stresseur. Tu l'auras intégré à ta zone de confort. Ça, c'est se renforcer. Et donc oui, je trouve que c'est très pertinent de venir déjà réduire, enlever les choses qui sont trop pour nous, tu vois, cette pression de notre environnement, c'est-à-dire tout ce qu'on doit faire, tout ce qui nous incombe, tout ce qu'on va dépenser comme ressources, ça, on va essayer de venir le réduire pour pouvoir retrouver assez d'énergie, pour ensuite pouvoir se renforcer et aborder nos relations avec les autres, notre relation avec le monde, notre relation avec notre environnement d'une façon plus sereine. Donc pour moi, c'est effectivement quelque chose qui va quand même assez bien d'un point de vue chronologique. Parce qu'il y a par exemple beaucoup de personnes qui vont travailler sur elles-mêmes, qui vont dire « bah moi je vais voir une psy ». Je fais de la méditation, je fais du yoga, je fais X exercices de, tu vois, de respiration, je prends X compléments alimentaires. En fait, on a rajouté beaucoup de choses, on essaie de se renforcer, d'aller toujours plus haut, plus fort, d'être toujours plus. Sauf que cette pression de l'environnement, en fait, elle ne disparaît jamais. La personne, elle travaille de 7h à 20h le soir, elle a X casquettes dans sa journée, elle ne s'en sort plus, en fait. Donc effectivement, venir réduire pour retrouver un peu d'espace, respirer, retrouver de la ressource, et ensuite pouvoir justement profiter de ce renforcement, ça me paraît essentiel. Maintenant, il y a quand même une chose sur laquelle moi je suis pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire de... Enfin, c'est pas ne pas être d'accord, mais c'est que pour moi, cette via negativa, elle doit être vraiment mesurée, en tout cas elle s'applique dans ce que je viens de dire, mais elle va pas s'appliquer pour tout. Par exemple, le fait de venir enlever des mauvaises habitudes. Ultra flippant. Parce que du coup, on fait quoi à la place ? Donc moi, je suis plutôt partisan de « on vient remplacer par d'autres choses ». On va venir enlever une habitude qu'on peut considérer comme défavorable pour son sommeil et venir la remplacer pour autre chose, pour ne pas qu'il y ait ce vide. En fait, c'est atroce de se retrouver face à du vide. Et tu vois, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, quand dans le rituel du soir, on se dit, dans nos habitudes du soir, on se dit « ok, j'enlève les écrans ». Ouais, mais il faut que je fasse un truc à la place, en fait. Sinon, la personne, elle est en errance et finalement, elle se retrouve sur les écrans. Donc, tu vois, Alors, tu me diras si j'ai bien compris ta question, mais en tout cas, moi, cette via negativa, je la prends avec un petit peu de pincette parce que je considère que, et même l'alimentation peut être aussi un très bon exemple, quand on dit à la personne, par exemple, faudrait éviter de manger ça, en fait, c'est pas ok pour vous, je sais pas, éviter, par exemple, de manger X carreaux de chocolat noir avant de vous coucher parce que c'est un peu excitant. Ben en fait, ça peut vite être flippant. Donc, en fait, elle mange quoi, la personne? En fait, ben, du coup, elle va forcément se rattraper sur, je sais pas, des biscuits, autre chose, qui va venir remplir la même fonction, peut-être émotionnelle, à ce moment-là, et qui sera tout aussi défavorable pour son sommeil. Donc, l'idée, c'est toujours de réfléchir à ça, en fait, au pendant, de si on propose à une personne d'enlever ça, ou si la personne, elle se dit « Ok, je vais enlever ça dans mon quotidien », par quoi je le remplace qui peut être positif, favorable. Et ça, quand c'est réfléchi en amont, ça permet de cheminer beaucoup plus sereinement.
Et est-ce que tu fais en sorte que ça soit ton client qui trouve l'élément de remplacement, ou est-ce que tu lui proposes toi directement?
Ben en fait, ça dépend. Ça dépend. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître là dans ce que je vais dire, mais en fait, on est tous différents par rapport à notre recherche d'objectifs et la façon dont on fonctionne. Dans cette relation que j'ai, moi, avec mes clients et les personnes que j'accompagne, on parle vraiment de relation d'aide, d'accord? C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une relation où moi, je suis dans le partage, et je vais aussi voir comment la personne, elle fonctionne, et je vais proposer. Et la personne, elle va prendre, selon là où elle en est, avec ses filtres à elle, avec ses objectifs, etc. Et du coup, on avance comme ça. Moi, en fonction de ce que je vois de la personne, je vais me dire, ok, cette personne-là, elle aime avoir des objectifs fixés. Elle aime cocher des cases. Tu vois, j'ai fait ça chaque jour, tac, 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 tac. Elle aime pouvoir aussi avoir une certaine liberté de choix dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle met en place. Peut-être qu'une autre personne, bah en fait, si on n'impulse pas, tu vois, si on n'amorce pas un truc, elle sera dans le brouillard, elle fera jamais rien. Parce que finalement, il y a tellement de choix pour elle que, bah, tu vois, tu te retrouves dans le paradoxe du choix où finalement, tu choisis rien du tout, tu procrastines et il se passe rien. Donc là, ça va être à moi de discerner si à qui je m'adresse et de venir dire, ok, là, je vais amorcer un truc. Je vais proposer. Peut-être juste deux choses pour pas que ce soit trop flou. Pour d'autres personnes, je vais proposer par exemple un journal du sommeil, de tenir un journal du sommeil. Ça va très bien fonctionner. Pour d'autres personnes, je vais leur proposer simplement, tu vois, d'être dans la rédaction d'un carnet des émotions ou de gratitude. Pour d'autres, ça va être, on va réfléchir ensemble à un mantra. À la fin de la consultation, à la fin de notre échange, la personne, elle aura un mantra vis-à-vis de son sommeil pour se rassurer lorsque c'est compliqué pour elle. Pour d'autres, ça va être, on s'en fiche de tout ça, on va travailler sur la technique. Quel exercice de respiration? Pendant combien de temps? Comment on fait? Est-ce qu'on respire par le nez, par la bouche? Assis, debout, en fait. Voilà, des trucs très, très spécifiques. Donc, c'est assez vaste, en fait. Ça dépend. Ça dépend.
Ok. Merci. On va passer maintenant, pour conclure quasiment maintenant l'épisode, sur les conséquences. On l'a abordé rapidement, toi et moi, ensemble. Et commençons par la notion de cycle du sommeil dont tu devais nous parler. Et donc, tu as déjà un peu parlé, tu parles de sommeil profond, de sommeil paradoxal, également de phase d'éveil au cours de la nuit. Comment effectivement, à quoi servent ces phases? Comment sont-elles réparties? Et quelles sont les conséquences du coup d'un manque de sommeil ou d'un trouble du sommeil ou d'une interruption de sommeil sur ces phases et donc potentiellement sur la santé, sur la physiologie ou encore sur la partie cognitive?
Alors, il n'y a pas de phase d'éveil. Par rapport à ce que tu dis, ce sont vraiment des micro-réveils. Mais oui, effectivement, la nuit, elle va se dérouler sur environ 7 à 8 heures. À prendre avec des pincettes. On n'a pas tous besoin de 8 heures tout le temps. C'est une moyenne, d'accord? Et c'est important de se dire que c'est une moyenne, mais même pour soi-même. C'est-à-dire que, en fonction de ce qu'on a fait la veille ou de ce qu'on a fait la semaine d'avant, en fonction de si on est malade ou si on a été malade, en fonction de notre état émotionnel, etc., on n'aura pas les mêmes besoins, d'accord? Donc même si on dort un coup 7h30, un coup 8h, un coup 7h, un coup 6h30, un coup 8h30, en fait, c'est OK. Ce qui compte, c'est la façon dont on se sent le lendemain au réveil. Donc on va considérer que sur à peu près ces 7-8 heures, on va enchaîner 5 à 6 cycles de sommeil qui vont durer approximativement 90 minutes. Au sein de ces cycles, on va avoir différentes phases. Phase de sommeil lent léger, qui correspond à d'ailleurs ce qu'on retrouve le plus dans la nuit, le sommeil lent léger. Phase de sommeil lent profond. Et phase de sommeil paradoxal, qui correspond au rêve. Et les différents cycles sont entrecoupés de micro-réveils qui sont de quelques secondes à 1, 2, 3 minutes, mais on ne s'en rappelle pas. C'est tout à fait normal, ça fait partie de la structure du sommeil. Ce qui pose problème, c'est quand ça se transforme en vrai réveil. Et donc effectivement, il va se passer des choses différentes en fonction de si on est dans le sommeil paradoxal ou si on est dans le sommeil profond, par exemple, il n'y a pas les mêmes actions au niveau du cerveau, au niveau de notre corps, il n'y a pas la même régénération. Tu vois, le sommeil profond, il va vraiment apporter presque de la régénération de survie au niveau des tissus. Tu vois, si on est blessé, ça vient aussi permettre d'activer le système immunitaire. On va vraiment être sur de la régénération en profondeur du corps. Au niveau du sommeil paradoxal, on va être plus sur La gestion des émotions, la gestion du stress, la gestion, tout simplement, de notre lien à l'environnement. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que d'un point de vue chronologique dans la nuit, eh bien, on va se retrouver avec cette chronologie-là aussi qui correspond un petit peu à notre évolution au fil des millénaires. C'est-à-dire que déjà, on a besoin de régénérer notre tissu, tu vois, pour nos tissus, notre corps, pour pouvoir être capable de guérir de nos blessures et de marcher, de fonctionner le lendemain, tu vois, d'un point de vue presque mécanique, j'ai envie de dire. Mais ce qui correspond à n'importe quel être, presque unicellulaire, mais en tout cas à n'importe quel animal. Et donc ça, c'est ce qu'on a surtout en début de nuit, c'est-à-dire que quand on s'endort, le corps, il va vraiment se focaliser sur le sommeil lent profond. Il y en aura presque plus en fin de nuit, voire plus du tout dans le dernier cycle. Et puis, bah, comme ça, quand ça c'est fait, on vient s'attaquer à une partie qui, d'un point de vue évolution, est arrivée plus tardivement. C'est-à-dire, bah, la partie, justement, relationnelle, émotionnelle. Et la partie de comment je gère ce qui se passe dans ce lien avec mon environnement, avec les autres. Et c'est là, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les rêves, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on rebalaye tout ce qui s'est passé dans la journée d'avant ou dans l'avant-veille, à toute allure. Et on vient stocker dans la mémoire aussi à long terme. Et on vient, mettre de la distance par rapport à certaines choses qui ont pu être impactantes au niveau émotionnel. Et ça arrive dans un second temps. C'est tout aussi essentiel pour nous aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça l'est moins. Mais c'est assez marrant de voir un petit peu vers quoi le corps y va en premier lieu. Et puis ensuite, vu que la nuit continue, ok, on va pouvoir faire autre chose. J'ai toujours trouvé ça assez fascinant. Mais c'est vrai que si les nuits sont trop courtes et qu'on n'a pas cette dernière phase où il y a beaucoup de sommeil paradoxal, en début de nuit, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup moins. Il y en a plus en fin de nuit. Ben on se retrouve dans une plus grande difficulté à gérer ses émotions et son degré de stress. C'est normal puisque finalement, il y a tout un travail qui n'a pas été fait. Et donc, c'est un cercle vicieux parce que ça veut dire que du coup, le soir, on va se retrouver avec plus de frénésie intérieure, un tourbillon émotionnel peut-être plus grand, on va avoir plus de mal à gérer ce qui s'est passé dans notre journée. Du coup, on peut mettre un peu plus de temps à s'endormir. La nuit est de ce fait un peu plus courte. Moins de sommeil paradoxal sur le matin et hop, on enclenche. Donc c'est important à un moment donné de venir vraiment se laisser de l'espace sur sa nuit et d'avoir une bonne gestion émotionnelle en journée pour ne pas se retrouver dans ce cercle vicieux-là.
Et au niveau des capacités cognitives, au niveau de la mémoire, au niveau de la concentration, au niveau de la motivation, est-ce qu'il y a un impact? Et si oui, lequel?
Alors, il y a un impact qui est absolument énorme pour la simple et bonne raison que le sommeil, c'est le pilier de tout, c'est-à-dire qu'il agit sur tout. En fait, il n'y a pas un pan de nous, de notre être, qui n'est pas traité, qui est mis de côté pendant le sommeil. Et donc effectivement, à partir d'une bonne nuit de sommeil, on va voir toutes nos capacités de mémorisation, d'apprentissage, de concentration, toutes nos capacités cognitives, en fait, qui vont être décuplées. Souvent, les études vont montrer l'inverse. C'est-à-dire que quand on a une très mauvaise nuit de sommeil, on se retrouve avec tout ce que je viens de citer dans les chaussettes. On a beaucoup plus de mal à mémoriser, à apprendre, etc. Donc c'est marrant parce que finalement on peut voilà soit on se penche sur qu'est-ce que nous apporte une bonne nuit de sommeil, soit on se penche sur quel est le problème quand je dors pas. Mais en fait on revient exactement au même. Et là où j'insiste encore, hein, mais c'est ce lien avec les autres, on va être beaucoup plus capable d'être en lien avec les autres et de façon efficace lorsqu'on a bien dormi. Ça veut dire qu'on est moins irritable, qu'on va être dans une meilleure communication, on va mieux comprendre aussi, tu vois, toutes les petites faciès, toutes les petites mimiques du faciès de la personne. Donc en fait, on va développer plus d'empathie. Et tout ça, c'est extrêmement important d'un point de vue personnel chez soi, c'est évident, mais aussi d'un point de vue professionnel. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui ont été menées en ce sens, de voir qu'est-ce qui se passe dans une équipe, qu'est-ce qui se passe dans une entreprise, qu'est-ce qui se passe dans le lien entre un manager et un collaborateur. Lorsque l'un ou l'autre, les deux, ont bien dormi, n'ont pas dormi. Bien sûr qu'il y a des impacts aussi sur l'absentéisme, les accidents de trajet pour venir au travail, les accidents de travail directement, etc. Parce que la capacité d'attention, elle décroît énormément. Et c'est assez fou le nombre de décès, malheureusement, qui sont à déplorer, les accidents de la route notamment, en lien avec un manque de sommeil. Et je cite même pas les médicaments liés au sommeil. Mais en tout cas, pour reboucler sur ta question, on ne peut pas imaginer être à son plein potentiel sans dormir suffisamment. Et si on s'habitue à dormir 4-5 heures par nuit et à se dire « ouais, c'est bon, ok, je fonctionne comme ça », c'est simplement parce que son propre cadre de référence a changé. et qu'on est un petit peu dans une espèce de, comment dire, d'acceptation d'un état d'être, on pense que c'est notre cadre de référence. Alors qu'en fait, quand on vient amorcer quelque chose de nouveau, qu'on dort plus, qu'on laisse plus d'espace à son sommeil, qu'on a les bons comportements pour son sommeil, on vient se découvrir des choses qu'on ne pensait plus être là, ou en tout cas décupler ses capacités professionnelles, relationnelles, et aussi sa motivation. C'est vrai qu'on parle beaucoup de procrastination, on parle beaucoup de tenir des objectifs dans le temps, etc. Mais en fait, ça, c'est aussi médié par nos neurotransmetteurs, c'est aussi médié par notre physiologie, qui est remise à niveau, qui est, comment dire, chouchoutée pendant le sommeil.
Et tu as pu l'expérimenter toi-même, ce changement d'état de productivité, de motivation, de conscience, de clarté, justement en quittant ta situation d'insomniaque à l'époque, pour avoir un sommeil davantage, on va dire, de qualité?
En fait, il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'on n'imagine même pas à quel point notre cerveau peut fonctionner différemment ou revenir à une situation qu'il a pu connaître par le passé avant les troubles du sommeil. Quand on souffre vraiment de troubles du sommeil, petit à petit, c'est un petit peu comme si notre champ de vision il se réduit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans une économie d'énergie permanente. Et petit à petit, quand on retrouve de la vitalité, quand on retrouve plus d'énergie, qu'on a plus de ressources, etc., on va pouvoir mobiliser toutes ces ressources-là pour autre chose. Et donc, c'est un petit peu comme si on enlevait des œillères et que notre champ de vision, il s'élargit et qu'on peut aussi beaucoup plus se projeter. C'est-à-dire que là où, « Oh, faut que je fasse ça aujourd'hui, je suis complètement... ça m'étouffe, en fait. J'arrive même plus à organiser mes idées, à avoir de la motivation pour faire telle ou telle chose. » On va pouvoir petit à petit se projeter beaucoup plus, anticiper, s'organiser, des choses qui paraissaient très oppressantes, ça devient clair, limpide comme de l'eau de roche, on va pouvoir travailler beaucoup plus sans avoir l'impression de fournir plus d'efforts, parce qu'on va s'organiser mieux, parce que tout va aller plus vite dans la tête, en fait. Et ça, c'est assez magique, c'est-à-dire qu'on voit à quel point tout tilte plus vite. Comme si notre cerveau, il était nettoyé, comme si il était, c'était clair. Donc oui, je l'ai expérimenté et je le vois expérimenté chez les personnes que j'accompagne et même les retours que j'ai sur mon podcast vont en ce sens-là. C'est incroyable, juste je me sens mieux. Parfois je pose la question aux gens, mais du coup, d'un point de vue sommeil concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Bah en fait, je sais pas trop, j'ai l'impression que je dors plus, mais c'est surtout, qu'est-ce que je me sens mieux ? Je suis plus joyeuse, au travail ça va mieux. En fait, parfois il y a même pas vraiment de mots, c'est-à-dire tout va mieux.
Et question par rapport à ça, c'est vrai que la chute, on va dire en quelque sorte, est progressive. Tu l'as dit toi-même, effectivement, du coup, on s'habitue tellement, c'est lent, c'est comme la cigarette, ça ne tue pas immédiatement, ça tue au bout de plusieurs années. Le sommeil, si on fait un parallèle, c'est quasiment la même chose, ça met du temps pour voir les conséquences réelles et pour les percevoir et pour les ressentir. Et c'est pour ça qu'on s'habitue à ces dernières. Mais est-ce que, du coup, le gain suite à un sommeil qui est repris en main est aussi progressif ou est-ce qu'il est davantage instantané?
Ça va bien sûr dépendre de l'investissement que la personne peut y mettre sur le moment, de sa situation de vie, etc. Parfois, ça peut être assez crescendo. Mais même quand c'est crescendo, ça va beaucoup plus vite que lorsqu'on y tombe. En fait, tout dans notre corps, tout dans le vivant d'ailleurs, tend vers le vivant, tend vers la vie, en fait. C'est plus comme si tu surfais sur la vague de la vie, c'est-à-dire que quand tu as par exemple un mauvais comportement ou des habitudes négatives, défavorables, ben en fait ton corps il va sans cesse essayer de s'adapter, c'est un petit peu comme s'il luttait contre ça, donc il va résister et toi tu vas plonger petit à petit parce que lui il résiste, il essaye de te sauver en fait de ce qui est en train de se passer. Mais quand tu enclenches des bons comportements, des comportements favorables, je préfère les appeler comme ça, ben là du coup c'est porte grande ouverte, là tu surfes en fait et du coup tu vas beaucoup plus vite, c'est-à-dire que même si tu vas crescendo parce que ta situation de vie fait que tu peux pas mettre tout en place ce que tu voudrais, etc., ou t'as des aléas, ça va aller beaucoup plus vite et tu peux sortir, comme moi, de troubles du sommeil après 15 ans, en l'espace de quelques mois, t'es plus la même personne. Je vais pas dire quelques jours, hein, là ce serait vraiment, ce serait mensonger, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe, il faut quand même, il y a une inertie au départ, il faut quand même laisser le temps au corps de pouvoir trouver ses repères, d'avoir plus de ressources à tout niveau, etc. Mais à partir du moment où c'est enclenché, pouf, quelques mois, 2-3 ans, et là tu te dis, ah ok, les 15 dernières années là c'est fini en fait, ça y est, je suis, c'est bon, les choses sont ok pour moi.
Merci pour tes partages, Aurélie. On arrive tranquillement à la fin de cet échange. Est-ce que tu as des choses à nous dire avant de se laisser tout simplement un mot de la fin, des précisions, des éléments qu'on n'aurait pas abordés ensemble?
D'une certaine façon, tu sais, il y en aurait plein. Je crois que je pourrais parler avec toi de ce sujet pendant des heures. Je pense qu'il peut y avoir quelques accessoires qui peuvent être sympas aussi pour démarrer, justement. On avait parlé, tu vois, des lunettes, mais on pourrait parler peut-être de la lampe de luminothérapie, par exemple, pendant les matins d'hiver. Là, tu vois, on enregistre ce podcast, on démarre l'hiver, ça peut aider. Ça peut être la lampe aussi, Eli Sleep. Lumière rouge le soir pendant le rituel, super intéressante. Mais bon, ça reste du gadget. Je trouve que c'est aidant quand on démarre, quand on veut enclencher quelque chose pour son sommeil. Mais la chose vraiment la plus essentielle, c'est la philosophie autour du trouble du sommeil. C'est-à-dire que considérer que c'est un symptôme, comprendre que la fonction sommeil, c'est une fonction innée, et œuvrer en ce sens, ça fait toute la différence. C'est-à-dire que là, on ne lutte plus. On accompagne son corps main dans la main, vers quelque chose de mieux. On cherche à comprendre, en fait. Et on se sent responsable. Responsable, ça veut pas dire coupable, hein. L'idée, c'est pas de se culpabiliser, qu'on dormait peut-être mal jusqu'à maintenant, etc. C'est juste que on reprend notre liberté au travers de notre responsabilité. C'est ma responsabilité, donc oui, c'est dur. Oui, je vais devoir faire quelque chose. Oui, c'est de mon ressort. Par contre, oui, c'est possible. Et non, c'est pas une fatalité. Et ça, ça fait toute la différence.
Super. Merci pour ce mot de la fin. Ah, pardon, on a été coupé. Merci pour ce mot de la fin. Les personnes qui souhaiteraient découvrir ton travail, du coup, peuvent cheminer vers toi par quels moyens? Le plus simple, c'est le podcast, c'est par email, c'est sur Instagram.
Oui, il y a le compte Instagram, effectivement. Après, là où je publie le plus de contenu, ça va être sur mon podcast. Bien sûr, je pense que tu mettras le lien, j'imagine. Donc, je pense que c'est le moyen d'avoir accès à maximum de contenu, gratuit en tout cas. Et après, bien sûr, pour les personnes qui veulent aller plus loin, j'ai créé une formation en ligne complète autour de la sortie des troubles du sommeil et de l'insomnie qui s'appelle Dormir de nouveau, où là il y a un vrai chemin pédagogique et où on balaye des choses beaucoup plus en profondeur que sur le podcast, avec des éléments bien sûr très très spécifiques sur ce chemin-là, avec des outils, avec du support, avec aussi un lien avec moi, puisque j'anime des lives dans le cadre de cette formation. Donc ça permet d'aller plus vite, quoi. D'aller plus vite et de se sentir en sécurité sur ce chemin, de se sentir accompagné. Donc finalement, ça dépend ce qu'on cherche. On peut me retrouver sur ces trois, de ces trois façons-là, finalement.
Très bien, je mettrai évidemment tous les liens directement en description. Merci Aurélie pour ton temps, merci pour la qualité de ce que tu as pu nous apporter, et potentiellement à très vite pour un nouvel épisode ensemble.
Merci à toi pour l'invitation, j'ai passé un super moment, je suis ravie de pouvoir partager tout ça, et puis quand tu veux pour un autre échange sur le sujet, bien sûr.
Avec plaisir. Salut.
Salut.
Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast pour une nouvelle interview. Je reçois régulièrement des experts de leur domaine afin qu'ils vous partagent la synthèse de leurs recherches pour vous donner des outils simples et actionnables pour améliorer votre vie, votre productivité, votre santé ainsi que vos capacités cognitives. Comme souvent, ces interviews sont très denses en informations. C'est pourquoi je vous invite à télécharger dès maintenant la fiche résumée de l'échange que je vais avoir en cliquant sur le premier lien présent en description afin de vous assurer de tirer pleinement bénéfice des conseils de mon invité.